Alors, ce que je vous propose dans ce carrefour qui s'appelle Marie, fille de Sion, c'est vraiment un parcours biblique. C'est-à-dire, c'est de chercher donc dans les images, dans la Bible, de faire une promenade en fait. Une promenade dans la Bible avec la figure de Marie, fille de Sion. Et donc, ça pourra être une découverte aussi en même temps de comment lire la parole de Dieu et aussi une découverte du lien extraordinaire du lien vital qui existe entre la Sainte Vierge Marie et les Écritures. Et quels sont ces enjeux pour nous aujourd'hui, donc qui sommes dans ce festival des familles, comment ça va s'inscrire dans ce festival? Donc, la première chose qu'on peut, la première question qu'on peut poser, c'est que signifie ce titre de Marie, fille de Sion? Alors, Sion, qu'est-ce que c'est que Sion dans la Bible?
Jérusalem.
Oui, ok. Sion, c'est Jérusalem. Or, vous savez que dans la Bible, et comme dans toutes les langues d'ailleurs, il n'y a jamais deux termes qui soient exactement synonymes. Sinon, ils s'annulent l'un l'autre, d'accord? Donc, ça se recoupe jamais à 100%. Alors, quelle serait la différence entre Jérusalem et Sion? Vous savez?
Sinon, ça, je vais te dire.
Non, Sion, c'est pas la Jérusalem céleste.
Non, c'est le peuple de Dieu.
Non plus.
C'est le mont Sion.
C'est le mont Sion, exactement. C'est le mont du temple. Har Sion en hébreu. C'est le mont du temple. Donc Marie, elle est fille de Jérusalem. Alors fille de Jérusalem, c'est un titre qui existe, n'est-ce pas, dans les prophètes, notamment dans le prophète Sophonie. Mais elle est fille de Sion. Donc dans le titre de Marie, fille de Sion, il y a la question du temple. Il y a la question de la présence du Dieu vivant parmi les hommes, au cœur de son peuple. Et donc, c'est un peu ça qui va faire le fil conducteur de notre petite méditation. Et aussi, donc, dans ce titre de Marie, fille de Sion, bien, la Vierge Marie va nous aider à faire un lien direct entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Et ça, pour rentrer dans la Bible, c'est une clé extrêmement importante de comprendre que nous avons affaire à une collection de livres qui ont été écrits pendant 1000 ans, donc on est d'accord, hein? Mais sauf que cette collection de livres, en vérité, n'en forme qu'un seul, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors pourquoi c'est si différent et en même temps c'est un seul livre? Qu'est-ce que c'est qui peut faire ça, ce phénomène absolument unique? Eh bien, c'est parce que nous croyons, comme les Juifs, nous avons cette foi en commun, que les Écritures sont inspirées du Saint-Esprit. Donc elles ont finalement un seul auteur. Pardon? Elles ont un seul auteur? Elles ont un seul auteur? Ben non. La Genèse n'a pas été écrite, n'est-ce pas, par le même auteur que l'Apocalypse? Donc comment est-ce qu'on tient les choses ensemble?
Ben si, c'est inspiré par l'Esprit Saint.
Oui, mais alors il n'y a pas d'auteur humain? Il n'y a pas d'auteur humain?
C'est par la parole, donc c'est ça, ça passe
Est-ce qu'ils ont les mêmes mentalités, les mêmes cadres culturels, les mêmes langages? Pas du tout. Ok. Donc, comment est-ce qu'on peut s'en sortir de cette question? C'est pas une question simple. On peut s'en sortir en pensant au Seigneur Jésus qui est le Verbe de Dieu. Vrai Dieu et vrai homme. Donc, notre parole, qui est vraiment ce verbe divin, elle n'est pas à moitié une parole humaine et pas à moitié une parole divine. Elle est complètement une parole divine. Et elle est complètement, complètement une parole humaine. Si elle n'était pas une parole humaine, nous ne pourrions pas utiliser les sciences humaines pour la lire. D'accord? Donc, nous pouvons utiliser l'histoire, les langues, etc., etc., pour avoir une bonne lecture de la Bible. Parce que, en vérité, les auteurs de la Bible sont de vrais auteurs, comme ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire liés à leur contexte, à leurs idées politiques, à leurs limites, etc. Donc, ce qui fait que, la Bible, elle n'est pas forcément un livre de science. Parce que l'auteur, il est vraiment un auteur de son époque. Sauf qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit. Et donc, il y a, dans les auteurs bibliques, cette alliance qui est vraiment vu, que nos yeux ont vu, enfin, dans le Verbe de Dieu, Jésus le Seigneur, vrai Dieu et vrai homme. D'accord? Et donc, c'est avec cette, or, non seulement ça, mais cette parole qui est vraiment divine, Elle est aussi la parole qui nous a créés, n'est-ce pas? Nous sommes créés par une parole de Dieu. Et donc, ça veut dire que cette parole, elle est créatrice. Mais ça, si vous avez vu la Genèse, vous le savez. Donc, cette parole divine nous a créés à l'image de Dieu. Et alors, donc, ce qu'on va voir dans ce titre de Marie, fille de Sion, c'est comment est-ce qu'on peut articuler ça? Comment la Sainte Vierge est vraiment définitivement la mère du Verbe, la fille de Sion? Comment elle incarne toute cette parole du début jusqu'à la fin? Voyez. Alors, bien sûr, comme c'est un carrefour, si vous avez des questions, des interventions, etc., c'est tout à fait possible, hein? Et puis à la fin, on peut trouver un petit moment pour les questions. Alors, donc, une fois que j'ai dit ça, on va faire trois points. On va essayer de faire trois points. Premièrement, ce que j'ai appelé les préfigurations dans la Bible de la Sainte Vierge. Comment les saintes femmes bibliques ont incarné, on va faire un petit parcours. En deuxième, on verra qu'est-ce que c'est que Jérusalem dans la Bible. Pourquoi, qu'est-ce que c'est, en quoi c'est intéressant de dire qu'elle est la fille de Sion. Et en troisième point, en quoi ça m'intéresse, moi, aujourd'hui, ici, à Nouan, dans ce festival des familles, de savoir que Marie est la fille de Sion. Et j'ai intitulé ce troisième point, le trésor de la mère appartient à l'enfant. Allons jusqu'à là. Ça devrait être pour nous une source d'exultation absolument inouïe. Est-ce qu'on est prêt à croire, à aller dans ces profondeurs de croire que le trésor de la Vierge Marie, tout ce qui lui a été donné, appartient à l'enfant, nous appartient à chacun? Ça demande beaucoup de foi. Ben, c'est un peu donc cet acte de foi qu'on va poser, qui sera un acte de foi qui sera enraciné dans une louange extraordinaire. Parce que nous allons voir le plan de Dieu sur chacun d'entre nous. Alors cette phrase, le trésor de la mère appartient à l'enfant, elle est de la petite Thérèse, qui est docteur de l'Église. Donc elle nous dit des choses qui sont qu'on peut méditer et qui sont vraies au plan théologique, hein. Donc Marie, elle est le rapport qu'elle a avec la parole. C'est qu'elle l'a écouté avec un cœur si pur et si saint et si ouvert qu'elle a conçu dans son sein. Vous voyez? Elle a conçu le Verbe de Dieu dans son sein. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la mère des vivants. Hein? Elle est aussi la nouvelle Ève. Et parmi tous ces titres, donc tout ça, ça bien sûr, ça se tient ensemble. Et au dernier concile du Vatican, elle a reçu le titre de mère de l'Église. Donc toutes ces choses-là sont liées. Et la parole qui s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie, ben, nous l'avons dans nos mains. C'est cette Bible que nous avons dans nos mains qui s'est incarnée dans le Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Donc l'enjeu, c'est que en nous mettant à l'école de la Sainte Vierge, en l'accueillant dans notre maison, eh bien nous aussi, chacun à sa place, chacun dans sa vocation, chacun à sa mesure, mais nous serons capables d'incarner ce Verbe de Dieu, de faire produire du fruit à la parole dans nos vies. Vous voyez? Et comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Comment on va le faire? Ben, la Sainte Vierge, elle a posé cette question. Comment ça se fera? Vous voyez? C'est divin. Hein? Nous, il faut accueillir, et il faut méditer, il faut faire notre part, mais le Seigneur fera le reste. Hein? Comment cela se fera-t-il? Ben, c'est la question qu'on peut poser au Seigneur. C'est magnifique ce qu'on a entendu, mais comment cela va-t-il se faire? Ben, ça se fera pour chacun. C'est pour tous ceux qui écoutent la parole. Donc, où est-ce que je trouve ça dans la parole? C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui écoute ma parole et celui qui la met en pratique, écoutez bien, c'est inouï. Celui-là met un père, une mère, un frère, une sœur. Quoi? Un père pour Jésus? Mais il a un père, non? Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Le psaume. voyez que dans l'écriture, on a les réponses aux questions qu'on se pose. À peine l'as-tu fait moindre qu'un Dieu. À peine l'as-tu fait moindre qu'un Dieu. C'est dans ces hauteurs-là, c'est dans cette gloire qu'il faut se souvenir de notre vie. Alors c'est difficile parce que on a les pieds dans la boue, on marche, on est à moitié à tâtons, on est dans ce monde de ténèbres, on lutte, on râle, etc., etc., etc. C'est pas vraiment glorieux. C'est pas vraiment glorieux. Et pourtant, c'est une gloire inouïe qui nous est promise, qui nous est donnée. Et la Sainte Vierge veut nous le dire, elle veut nous répéter que nous sommes appelés à cette gloire incroyable d'incarner nous aussi cette parole et d'exulter de pouvoir avoir ce contact avec la parole qui va non seulement nous recréer, mais créer autour de nous. Okay. Alors, moi, je vous ai dit que on était dans les préfigurations. Alors, je vais vous dire que dans la Bible, il y a une clé. Le tout premier commandement biblique, qui est-ce qui le connaît? Tout premier. Commandement number one.
Tu n'adoreras qu'un seul Dieu?
Non. Ah, c'est le piège. On m'a dit, je vais vous mettre sur la piste. On m'a dit, quoi? Tu veux faire les commandements? C'est un juif qui m'a dit ça. Tu veux faire les commandements? Bah oui. Tu fais même pas le premier. Moi, je fais pas le premier. Vous, vous le faites. Moi, non.
Oui, c'est ça, c'est écoute.
Non, non, non. Croissez, multipliez-vous. C'est le commandement donné à Adam. C'est le premier. Et toi, tu le fais pas. Tu es stérile. C'est ça, ça va pas. Voyez? Oui,
C'est
oui.
ça.
Et voilà.
Oui.
Eh ben, bien entendu. Bien entendu. Ils sont offensés de voir qu'une femme n'appartient pas, n'est pas, porte pas de fruits. C'est vraiment fou. Il faut que j'aie des enfants. Il me le faut. C'est le premier commandement. Voyez? Et alors, là.
Pourtant, il y avait des vierges au temple, non?
Ah, non. C'est pas si évident.
Ah
C'est pas si évident. Elles étaient peut-être vierges pour un certain temps, mais
oui, c'est ça.
normalement, il faut se marier dans le judaïsme. Et donc, la question, c'est que, pourquoi je porte pas de fruits? La réponse, c'est parce que je suis déjà au royaume. Ah bon? Je vais t'emmener à Gaza, tu vas voir si on est au royaume. Oui, pourtant, on est déjà au royaume, hein. Nous, les catholiques, les chrétiens, on est passé déjà de l'autre côté, même si on est encore en route dans ce chemin. D'accord? Et donc, il s'agit pas de produire, de faire des trucs, d'avoir des usines, etc. Il s'agit avant toute chose de porter du fruit, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc, il y avait un enjeu incroyable pour les matriarches. Il fallait qu'elles aient du fruit, non seulement parce que c'était le commandement donné à Adam, mais à plus de ça, et elles le savaient. Elles devaient porter la descendance messianique. Elles devaient porter le salut du monde. Lisez la descendance de la généalogie de Jésus, il y a les matriarches dedans. Rachel, Léa, etc. Elles sont les mères. Ok, d'accord. Et pourtant, ça commence très très fort. Parce que, donc, vous connaissez l'histoire d'Abraham, ça commence avec Abraham. Eh ben, Sarah est stérile, hein, ça commence très fort. Je vais te donner un fils, tu auras une descendance, etc., plus nombreux que les sables, que le sable et les étoiles du ciel, puisqu'on en fait tous partie. Et voilà qu'elle est stérile. Donc, catastrophe, en plus, elle a 90 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Dès le départ, ça veut nous dire comme ça, que, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, Sarah, elle a donné à Abraham Agar, sa servante. Puis finalement, c'était pas le fils promis, c'était pas sa descendance. Donc, il y a eu l'histoire avec les 3 anges et finalement, elle a eu un enfant. Bon. Et ça continue, si encore il y avait elle, mais ça continue avec donc Rebecca. Et donc, Isaac doit prier pour Rebecca. Vous avez ça en Genèse 25, 21, parce qu'elle était stérile. Puis, on arrive à Rachel. Et Rachel, pareil, c'est pourtant la femme qui est aimée, mais elle se retrouve avec ce problème de stérilité, au point qu'elle dit à son époux Jacob, fais-moi avoir des enfants ou je meurs. Vous imaginez la scène? Jacob, il est mal. Jacob, il lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Suis-je à la place de Dieu pour te donner une descendance? Je ne peux pas. Tout est dans les affaires, dans les mains de Dieu. Et donc, finalement, il y a encore un stratagème et elle va finir par avoir des enfants. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire, cette histoire-là? Ça veut dire que il y a la promesse divine, mais Dieu ne veut pas agir sans la participation de l'humanité. C'est ça donc que veut nous dire donc l'histoire de ces femmes. Dieu attend qu'il y ait au minimum un acte de foi de la part de ces femmes pour leur donner la descendance. Elle est promise et pourtant il faut que l'homme fasse quelque chose. Alors, à quoi on a affaire là? Ben, on a affaire à exactement ce que c'est que l'alliance. Tout est donné et en même temps tout est à faire. Regardez bien dans nos vies, hein. Ben, le Seigneur, il nous fait des promesses inouïes. Il n'y a qu'à ouvrir la Bible, il n'y a qu'à m'écouter, il n'y a qu'à écouter ce qu'on nous dit dans les carrefours, etc. On prie, on a des promesses, on a des paroles, etc. Puis boum, tout d'un coup, on se rend compte que ben, ça marche pas exactement comme ça. Donc on se dit, ben, ce que ça va pas marcher, c'est pas grave, on va essayer de faire, de bricoler quelque chose pour que ça marche quand même. Bon, mais sauf que là, c'est encore plus grave, parce que là, ces femmes, elles savent que ce qui est en jeu, c'est notre salut à nous, c'est le Christ. Si elles n'avaient pas bougé, si elles n'avaient pas cru jusqu'au bout, l'alliance aurait été remise en question, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça qui est vraiment en jeu dans ces préfigurations. Alors, il y a d'autres femmes qui nous parlent de cette réalité. Elles s'appellent Chifra et Pua. Alors, je sais pas, vous les connaissez? Chifra et Pua, c'est les deux femmes qui refusent de tuer les bébés égyptiens en Égypte, les bébés hébreux en Égypte. Elles décident, et alors là, elles risquent leur vie, hein. Elles risquent leur vie et elles inventent un stratagème pour que la vie vienne quand même. Et donc, à cause de cette résistance et à cause de la résistance aussi de la sœur de Moïse, eh bien, l'histoire d'Israël va pouvoir se dérouler de façon correcte. Sinon, le peuple messianique, le peuple qui portait la promesse, aurait pu disparaître. Voyez, il y a donc cette participation qui réclame d'aller jusqu'au bout, presque de donner notre vie. Et pourtant, c'est un paradoxe énorme. Dieu m'a promis, et de l'autre côté, c'est à moi de faire le travail. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Et donc, toutes ces matriarches, elles nous expliquent à quel point elles ont été inventives pour que malgré tout, en dépit, à la limite, on pourrait presque dire en dépit de Dieu, si on était vraiment fâchés, malgré lui, mais non, c'est pas malgré lui, la promesse doit s'accomplir. Et alors, par exemple, il y a l'histoire de Tamar. Alors ça, c'est une histoire qui vaut la peine d'être lue parce qu'elle est incroyable. C'est Genèse 37, c'est une sombre histoire, comme il y en a plein dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que c'est tellement agréable comme lecture, parce que c'est toujours des histoires, des situations totalement improbables, mais qui finissent toujours finalement dans la lumière. Alors, ce chapitre de la Genèse, c'est, pardon, Genèse 38, pas 37, c'est pour ça que j'ai vérifié. Donc, 37, c'est l'histoire de Joseph qui descend en Égypte. Alors voilà, on nous raconte l'histoire de Joseph. Et tout d'un coup, on nous raconte l'histoire de Judas, son frère. Donc, l'histoire de Judas, c'est qu'il a des fils, n'est-ce pas, qui doit donner à Tamar. Donc, il y en a un qui va avec Tamar, il s'appelle Onan. Et puis, il veut pas d'enfant et s'arrange pour pas faire d'enfant à Tamar. Vous irez lire ça. Et donc, Tamar est stérile. Ce qui est une catastrophe. Donc, l'homme meurt et elle réclame, comme c'est la loi biblique, son frère. Donc, elle dit, ben, moi, j'ai pas eu d'enfant, il faut que le frère vienne, il y a la loi du Lévira, et que j'essaie d'avoir des enfants avec. Le frère arrive, même histoire. Il veut pas donner de descendance à son frère. Catastrophe. Tamar, elle sait qu'il y a un enjeu messianique. Elle le sait quelque part, qu'elle doit absolument avoir un enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donc se déguiser en prostituée, attendre sur le chemin et arrive Judas. Judas lui-même, son beau-père, parce que les deux fils sont morts, il veut pas donner le troisième. Il dit, ah non, non, deux, ça suffit. Le troisième et tout, ah là là, c'est catastrophe, etc. Donc, ça nous rappelle l'histoire de Toby, hein, Toby et Sarah, la pauvre Sarah, voilà, tous ses maris qui meurent. Et voilà, reblotte. Et donc, Tamar va avec Judas. Et puis, finalement, Judas lui dit, donc, il lui donne ses signes, c'est-à-dire son bâton et son sceau. Et puis, elle est enceinte. Et on vient dire à Judas, Tamar s'est prostituée, elle est enceinte. Et que dit Judas, si vous avez lu votre Bible? À mort. Elle s'est prostituée à mort. Donc Tamar a bel et bien risqué sa vie pour être enceinte. Elle a risqué sa vie pour être fidèle à la promesse qu'elle savait venir de Dieu. La promesse messianique. C'est quand même un paradoxe extraordinaire quand on y pense. Hein. Et donc, finalement, elle dit, je suis enceinte de celui à qui appartiennent ces signes. Et donc, Judas reconnaît et dit, OK, elle est plus juste que moi. Et grâce à ce stratagème, elle va entrer dans la généalogie du Messie. Hein, et donc, son fils sera donc l'ancêtre du Seigneur Jésus, de Jésus. Vous voyez? Donc, ça s'est fait vraiment de façon pas du tout évidente. Hein. De façon, alors, je sais pas si on peut faire le lien rapide. Judas, c'est lui qui avait pris la tunique de Joseph pleine de sang et qui était allé la porter à Jacob en lui disant, regarde, ton fils est mort et qu'est-ce qui lui arrive? Regarde, regarde ces signes, c'est toi. Voyez? Il y a une espèce de correspondance comme ça quand on est attentif dans la Bible, c'est assez incroyable. Il y a des correspondances où les gens sont pris au sérieux. Voyez, ça retombe finalement, le stratagème retombe sur celui qui l'a créé. C'est assez hallucinant. Comme Rachel quand elle dit « Fais-moi des enfants ou je meurs ». Terrible! Elle est morte en donnant en naissance à son fils Benjamin. Voyez, au deuxième. Bon, alors c'est comme ça. Mais bon, il y a toute cette importance de la parole et tout ça, ça se déroule. Et donc, on arrive donc dans ces préfigurations. Encore une autre qui est assez incroyable, c'est l'histoire donc de Ruth la Moabite. Pour elle, c'était encore plus mission totalement impossible qu'elle soit l'ancêtre du Messie. C'était juste pas imaginable. Parce qu'il y a une parole qui la concerne dans Deutéronome, chapitre 23, 3. Les Moabites sont interdits aux Israélites. Toutes sortes de femmes étrangères, à la limite, ça peut aller, sauf les Moabites. Interdits, strictement interdits par la Torah. C'est pas des lois orales, c'est vraiment la Torah qui interdit ces mariages. Et pourtant, elle va avec, c'est pareil, il y a un stratagème. Elle sera donc, elle va aller voir Boaz qui dort, etc. Toute cette sombre histoire avec Noémie. Et finalement, elle va entrer elle aussi dans cette généalogie. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que dans tout ce que ces histoires bibliques, on se trouve confronté à des situations extrêmes, des paradoxes extrêmes. Ces femmes savent qu'elles doivent être enceintes, qu'elles doivent construire la maison d'Israël pour le salut de l'humanité. Alors bon, elles le verbalisent pas comme ça, évidemment, mais l'Esprit Saint est là, hein. Et elles sont poussées par l'Esprit Saint à faire ce qui n'est pas possible. Juste pas possible, quoi. Combien il y avait de chances que Judas passe quand Tamar attendait sur le chemin et des choses comme ça. Et pourtant, elles ont cru jusqu'au bout, elles ont tout fait et elles sont arrivées donc à l'Annonciation. C'est grâce à la foi de toutes ces femmes qui ont espéré contre toute espérance qu'on a pu arriver à l'Annonciation qui a été préparée. On peut dire que toutes ces femmes, elles ont reçu des paroles divines, des micro-verbes de Dieu, qui n'étaient pas tout à fait des annonciations, mais des préfigurations de l'annonciation. Et que chaque acte de foi, de courage, d'espérance, contre toute espérance de ces femmes, se sont transmis de génération en génération. pour arriver au miracle des miracles, à la Sainte Vierge Marie, qui est donc une bonne descendante de ces femmes. Alors, Benoît XVI, il compare la Vierge Marie à Abraham. Et il dit, c'est la même chose que Abraham. La Sainte Vierge Marie est vraiment celle qui espère contre toute espérance. On pourrait dire, mais c'est plutôt Sarah, non? Ce serait plutôt Sarah, non? C'est Abraham, c'est vraiment lui le patriarche qui reprend donc qui le père de toutes les alliances, qui est donc aussi une figure de la foi de Marie. Alors qu'est-ce qui se passe pour Marie au moment de l'Annonciation? Ben, il est toujours bon de se rappeler que en fait Marie n'est pas du tout, enfin, vous le savez bien, évidemment, mais enfin, c'est toujours bon de le rappeler, elle est tout sauf une femme mièvre ou faible. Elle est vraiment l'héritière de ces femmes fortes de la Bible. Elle est vraiment la femme forte par excellence. Elle est la femme forte du Proverbe. Je ne sais pas si vous avez vu la finale du livre des Proverbes. Une femme forte qui va la trouver. Elle se lève le matin, elle travaille, etc., etc. La Eshet Ra'el, on la chante. C'est vraiment la femme qui est dans toute sa force. Et voilà, c'est la Vierge Marie. Elle n'est pas du tout une femme effacée ni rien. Et quand il lui vient la parole de l'ange, quand elle dit oui, elle sait clairement, comme toutes les femmes, qu'elle risque la mort. Une femme enceinte qui n'est pas reconnue par son mari, eh ben alors ça arrivait pas souvent. Évidemment, dans la loi juive, il faut pas penser qu'on lapidait si facilement les femmes. Il y a toujours des moyens de contourner les choses, hein. On mettait pas du tout les gens à mort comme ça. Mais quand même, techniquement, selon la loi, elle risque sa vie. Et alors non seulement elle risque sa vie, mais en tout cas, elle s'expose aux humiliations. Et non seulement ça, elle expose Joseph. Donc c'est hyper grave la décision qu'elle prend. C'est pas du tout n'importe quoi. Il y avait vraiment de quoi avoir peur. Avoir peur pour sa vie, pour sa réputation, pour ceux qu'on aime. Et donc, elle a dit oui. Elle s'est mise dans cette lignée. Et du coup, elle a mérité qu'on lui dise le fruit de ton sein. Voyez, elle est celle qui fructifie. Celle qui accomplit vraiment le premier commandement donné à Adam, qui est le commandement d'une fécondité, de porter du fruit. Et donc, elle mérite donc ce titre de fille de Sion. On arrive donc à ce titre de fille de Sion. D'où lui vient ce titre? Donc, on a dit tout à l'heure que si elle est fille de Sion, ça veut dire qu'elle est comparée à Jérusalem. Alors, il y a une phrase qui est hyper courte d'un père de l'Église, mais alors il y a des implications qui sont énormes quand on lit la Bible. Origène, il a dit « Toute âme est Jérusalem ». On peut comparer une personne humaine à Jérusalem. C'est assez hallucinant quand on y pense. Bon, alors on peut dire « Ok, on va lire la Bible et on va s'appliquer les paroles qui concernent Jérusalem ». C'est très bien, c'est vrai, c'est ça, c'est encore plus. Donc on a vu le mont du Temple, Sion, et il y aurait, bon allez, on n'a pas le temps, mais il y aurait un travail biblique à faire. Vous avez donc le Temple, n'est-ce pas? La structure du Temple qui représente l'âme humaine. Et ça, l'ancêtre du Temple, le prototype du Temple, c'est la demeure, vous voyez? Exode, dans les chapitres 19 à 25, quelque chose comme ça, Moïse reçoit le commandement de faire ce qu'on appelle en hébreu le Mishkan. Mishkan, ça veut dire simplement la demeure. Le lieu, Shakan, c'est habiter. Shchen, Seken, en arabe, c'est vraiment demeurer, habiter. Donc, il doit faire une demeure, mais sauf que la demeure, elle est portative, elle est mobile puisqu'il la porte. Eh ben, il y a des commentaires qui vous expliquent, commentaires juifs qui vous expliquent à quel point le Mishkan ressemble à un corps humain. Ah, c'est incroyable. Les rideaux qui sont bleus comme les veines, il y a les yeux, la bouche, etc. Hein? Donc, la demeure est construite comme un corps humain. Quand je vous dis qu'on est créé à l'image de Dieu, N'est-ce pas incroyable? Donc, il y a cette demeure, et Dieu dit à Moïse, fais-moi un sanctuaire. On pourrait penser, c'est quoi la suite? Pour que j'y habite, n'est-ce pas? Fais-moi un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. Déjà, dans le désert, le désir de Dieu d'habiter au milieu d'eux. Donc l'ancêtre du temple qui est l'image du corps humain, de nous-mêmes, le temple de Jérusalem, qui a été comparé aussi à un corps humain, c'est pas? Et donc, nous qui sommes ce temple, hein, ça c'est Jésus qui le dit, donc vous, et Paul, vous êtes le temple de Dieu. Hein. Et donc, on peut trouver dans la Bible toutes ces préfigurations. Et donc, quand on pense à Marie, fille de Sion, il faut apprendre à lire la Bible en faisant des analogies, comme ça, en liant les versets entre eux. Plus on lit la Bible, plus on va trouver ces correspondances. Marie, elle est fille de Sion, elle est fille donc du temple. Et ben, elle est aussi mère de l'Église, vous voyez? Ça peut se comprendre. Et donc, à ce moment-là, cette parole, cette chose-là, si on les approfondit, on va mettre en pratique un petit verset qui est dans Sagesse 16-12, qui dit comme ça. « Ce ne sont pas des médicaments ou des onguents qui nous guérissent, Seigneur, mais ta parole. » Pourquoi est-ce que cette parole est guérissante? Elle est guérissante parce que on découvre qu'il y a une unité extraordinaire de la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a cette logique divine. Dieu nous raconte toujours la même chose, sauf qu'il le dit à des époques différentes, etc. Et on se réconcilie, on réconcilie la rupture entre les deux testaments, voyez? On peut penser qu'il y a une rupture entre les deux testaments, on l'a entendu, dans des homélies, n'est-ce pas? La loi ancienne, desséchée, etc., les pharisiens, oui, mais moi, à quoi ça m'intéresse comme chrétienne aujourd'hui de savoir que les pharisiens ont dit ceci ou cela? Ça m'intéresse en quoi de savoir qu'ils n'étaient pas des types sympas? En quoi ça m'intéresse? Acclamons la parole de Dieu, oui, c'est bien dit. Pourquoi ça m'intéresse? Bah, cet homme, c'est toi, évidemment. Hein, c'est la parole de, vous rappelez, du prophète à David. David qui se met à dire à la mort, cet homme-là qui a fait une chose aussi affreuse. Et le prophète le regarde, et dit, c'est toi. C'est toi, roi David. Voyez, cette parole, cet homme, c'est toi. Les pharisiens sont affreux. Cet homme, c'est toi. À nous de nous convertir. À nous aussi, nous sommes ces pharisiens aujourd'hui. Évidemment, sinon il n'y a aucun intérêt. Donc, la loi n'est pas sèche. Au contraire, Dieu dit dans son... Jésus dit, il a cette parole, cette parabole du fils qui demande à son père un œuf ou un serpent. Un œuf. Il dit, mais s'il demande un œuf, est-ce que le père va lui donner un serpent? Mais nous, on peut dire, qui est le fils de Dieu? Israël. Dans Exode. J'ai dit tuer à mon fils. Et Dieu le Père va lui donner un serpent. Il va lui donner une loi qui est pas belle, qui est pas source de vie. Non. La loi de Moïse de l'Ancien Testament est source de vie. Elle est belle encore aujourd'hui. L'alliance n'a jamais été révoquée. Et donc, c'est une guérison profonde d'entrer dans cette réconciliation, dans cette unité des Écritures. Parce que nous sommes profondément réconciliés parce que nous comprenons que Dieu est fidèle. Que Dieu dit toujours la même chose, n'est-ce pas? Et que donc ces écritures sont toutes sources de vie du commencement jusqu'à la fin. Elles ne sont pas sources de vie. Eh bien sûr, c'est déjà merveilleux de voir qu'il y a des préfigurations. C'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas seulement préfiguration. Elle est aussi parole de vie pour nous aujourd'hui. Et le moyen de le voir, c'est de nous y plonger et de voir à quel point ça correspond. Il y a des correspondances inouïes entre le premier et le deuxième testament. Et donc, ce titre de la Vierge Marie, mère du Verbe, fille de Sion, il est vraiment extraordinaire pour nous aider à comprendre tout ça. Alors, donc, je vous ai dit que si vous avez des questions, vous pouvez toujours intervenir. Je vais essayer d'avancer, s'il faut avancer. Ok, on a dit que donc Jérusalem préfigurait notre âme, d'accord? Alors, il y a deux choses qu'on peut dire avec Jérusalem. Je vous l'ai dit simplement, et après, ce sera à vous de continuer l'exploration. C'est comme si je vous montre des portes. On peut pas aller plus loin. Une première porte, c'est que vous avez un mot en hébreu au moment, après la chute d'Adam. Dieu dit, où es-tu? N'est-ce pas? Alors, un mot en hébreu français, où es-tu? Voilà. Où es-tu? Bon, il le cherche. Dieu cherche Adam. Non. En hébreu, c'est un peu plus que ça. En hébreu, c'est pas où on dit « Eifo ». Et là, Dieu ne dit pas FO. Il dit Eir. Eir. Ça veut dire comment? Comment? Il pose une question. La chute, comment? Et il y a un livre biblique qui commence par ce titre, par comment. Est-ce que vous connaissez? C'est pas vocalisé de la même façon. C'est pas vocalisé Aïr, c'est vocalisé Aïka. Alors si je vous dis la suite peut-être, comment elle est tombée la ville populeuse, elle naguère qui était remplie de princes, etc. C'est quoi ce livre? C'est le livre des Lamentations de Jérémie sur Jérusalem qui vient d'être exilée, qui vient de tomber aux mains des Babyloniens. Et l'écrivain dit « Eir !» Exactement comme sur la chute d'Adam. La chute de Jérusalem, c'est la chute d'Adam. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que la ville de Jérusalem, qui est vraiment, qui a une vocation particulière, elle a aussi, comme le peuple d'Israël, une vocation qui est pour les nations, qui est universelle. Les deux sont vraiment mêlés. Et le destin de Jérusalem, c'est le nôtre. Nous sommes des exilés, hein, on le chante. Pleurant et gémissant dans cette vallée de larmes. Bon, alors, c'est pas qu'une vallée de larmes, on va pas. Mais quand même, c'est le destin d'Adam. Adam est exilé tant que nous ne sommes pas dans le royaume. Tant que nous ne sommes pas au festin des noces, nous sommes en exil. Et alors, ce que vont vous dire les historico-critiques, la Genèse a certainement été écrite. Alors bon, c'est rédigé, on va dire, parce que c'était tradition orale, n'est-ce pas? Mais elle aurait été composée, finalisée après l'exil. Alors pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant de savoir que ça a été finalisé après l'exil, la Genèse? Parce que comme je vous l'ai dit, les scribes sont vraiment des auteurs humains. Donc ils écrivent avec leur propre histoire. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce scribe? Il était au paradis, il était avec la présence de Dieu à Jérusalem. À cause du péché de son peuple, il est parti en exil. Et de sa pauvre histoire, complètement unique, pauvre dans un certain endroit de Babylone, cette pauvre histoire de ce scribe, elle rejoint l'humanité tout entière. Voyez, en passant par Jérusalem. Il a vu la chute de Jérusalem, il a vu la chute d'Adam. Et Jérusalem est faite, mais évidemment, on ne va pas rester au livre des Lamentations, elle est faite pour être restaurée. Lisez les Lamentations, mais après vous courez à Isaïe 60. Parce que c'est voilà. Et donc Isaïe 60, elle est magnifique, elle est splendide, elle est bâtie sur des rubis, enfin elle est complètement restaurée, etc. Et donc voilà, c'est ça donc cette vocation. Mais alors il y a une autre chose que je vous ai dit que j'allais vous dire. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que dans la tradition juive, Adam a été créé où? Au mont du Temple. Il a été créé au mont du Temple, avec la poussière du mont Sion. Voyez, donc c'est vraiment lié à l'humanité. Hein, Jérusalem comme le nombril du monde, Adam créé, et alors le nouvel Adam Jésus, il est mort et ressuscité là, à 100 mètres à vol d'oiseau, au Golgotha. Et si vous entrez dans le Saint-Sépulcre, il y a une chapelle d'Adam. Il y a la chapelle d'Adam avec son crâne qui est enterré. Et regardez vos crucifix, il y a un crâne sous le crucifix qui est le crâne d'Adam. Regardez l'image de la résurrection, Jésus va chercher Adam, il est juste dessous. C'est le même endroit, voyez? C'est ce même endroit. Et donc, c'est toute cette symbolique qui est portée dans ce titre de Marie, fille de Sion. Marie, fille de l'humanité, en même temps, mère de l'humanité, cette nouvelle Ève. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un troisième point, ce que je retourne, et on va conclure avec ce troisième point, c'est le trésor de la mère appartient à l'enfant. Donc, comment nous pouvons entrer dans donc cette participation, eh bien, je vais vous citer donc Saint-Augustin qui est cité par le catéchisme. En gros, il dit Dieu qui t'a créé sans te demander, il va pas te sauver sans ton consentement, c'est-à-dire sans ta participation. Voyez, c'est-à-dire que la Sainte Vierge n'a jamais été passive. Elle est absolument pas du tout ce qu'on pourrait appeler une mère porteuse. C'est tout sauf ça. Absolument pas du tout. Elle est vraiment, elle participe avec sa volonté, etc., à l'incarnation. Et donc, c'est tout à fait le paradoxe de notre vie chrétienne. C'est d'apprendre à avoir ce que j'ai appelé un abandon actif. Il faut pas se contenter d'abandonner, etc. Ça, ce serait une hérésie. On n'est pas là pour tout laisser tomber, etc. Et puis Dieu va le faire, non? Et on n'est pas non plus appelé à faire tout à la force du poignet, parce qu'on va jamais y arriver, c'est impossible. Il faut réussir à être des gens d'alliance. Et donc, ces gens d'alliance, chez les Juifs, ils disent, il y a un mot pour ça, ils disent, ce sont des gens en marche. Quand on marche, on n'est jamais équilibré quand on marche, voyez? Mais le propre de l'homme qui est en alliance, c'est de marcher et de trouver cet équilibre sans cesse à refaire entre ma volonté et celle de Dieu, ma volonté et celle de Dieu, pour les bâtir toutes les deux en alliance. Et donc, c'est ça que la Sainte Vierge va nous donner. Et alors, l'autre paradoxe, c'est que le fruit de cette marche, eh bien, c'est la plus grande des libertés. Paradoxe avec lequel je vous laisse méditer, plus on obéit au Seigneur, plus on est libre. Techniquement, on le sait, comment est-ce qu'on va l'expliquer? Comment est-ce qu'on va faire pour comprendre que ça, hein? Eh ben, pourquoi ça nous rend libre, en gros? Parce que plus on va obéir à Dieu, plus on va ouvrir la porte au bonheur le plus extraordinaire. Qui est pas un bonheur, c'est pas du plaisir, quoi, n'est-ce pas? Nous sommes payés pour savoir. Mais c'est un bonheur qui est d'être rendu à notre dignité de personne en alliance, voyez? Et donc d'être de plus en plus libéré, hein? Libéré des aliénations, libéré de l'ego. Et donc, c'est une très grande joie. Et on peut comprendre à ce moment-là comment Paul peut commander à ses disciples d'être joyeux. Non, mais ça va pas la tête. Soyez toujours joyeux. Si j'ai envie de faire la tête, si ça va pas, si j'ai chaud, si j'ai froid, si j'ai des problèmes, si je suis malade, je vais être joyeuse. Non, mais oh bah, c'est de la poésie, c'est des excès, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Hein? C'est donc cette joie de vivre en alliance qui nous est transmise donc par cette Marie, fille de Sion. Donc voilà, j'en ai fini. Je vous ai pris un peu de temps. Et je voudrais finir en vous donnant, donc si vous voulez, il y a à la fin du mois de janvier, le dernier week-end, il y aura une retraite qui sera prêchée dont le thème, c'est cette question. Comment peut-on être libre en obéissant? Comment peut-on se sanctifier, devenir des grands saints en obéissant, hein? Et donc l'histoire, c'est que plus on est libre, plus on est saint. C'est pas parce que plus on est saint, plus on est libre. Je renverse. Plus on accepte d'être libéré, plus on va devenir saint. Voilà. Donc c'est le dernier week-end de janvier. Si vous avez des jeunes, des catéchumènes, des gens qui n'ont pas de formation, bienvenue. Et donc il y a pas besoin d'être formé pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Et puis si vous avez des questions ou autre, voilà.
Ma sœur, il y a une tradition de la consécration de Marie au temple, donc un peu dans la culture catholique quand même, une consécration virginale, enfin de consacrer une virginité à Dieu. Mais du coup, c'est complètement antinomique avec toute la tradition juive.
Oui et non. Oui et non, on peut dire. Oui et non. Alors, c'est une question complexe, on va dire. C'est une question complexe. D'ailleurs, j'ai pas tous les éléments pour vous répondre. Mais ce qu'on peut dire, c'est que il y a eu dans le judaïsme des consécrations de la virginité ou du célibat à titre exceptionnel. Ça peut arriver, et très souvent, c'est à titre temporaire. Mais c'est alors. On peut dire que le judaïsme rabbinique d'aujourd'hui n'est pas le judaïsme du temps de Marie. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et il y a eu nous, et donc il y a eu des réactions antichrétiennes qui ont dit, bah, les chrétiens, les premiers moines, dès que les persécutions se sont arrêtées, les fous de Dieu, ils se sont mis au désert pour vivre quand même le martyr. Ils disaient, il n'y a plus moyen de se faire martyriser, bah, on va aller au désert, on va affronter les démons. Et donc, le célibat des chrétiens, peut-être, ça a été une façon de se démarquer aussi du judaïsme rabbinique. Bah, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il faudrait des spécialistes. Mais donc, vous pouvez avoir au moins ces deux éléments de réponse, parce que les nazirs se consacraient à Dieu, mais les nazirs, ils n'étaient pas du tout dans le célibat. Voyez, il faudrait creuser cette question, mais et après, ça n'empêche pas que évidemment qu'il y avait quand même un appel du Saint-Esprit sur la Vierge qui était quand même conçue sans péché originel. Donc il y a beaucoup de raisons de, on va dire pastorales, de convenance, bien sûr. Mais voilà, donc ça c'est voilà à méditer. Il ne faut pas penser que le judaïsme qu'on a aujourd'hui était celui de Jésus, évidemment. Ni que la Sainte Vierge a allumé les bougies de Shabbat. Non, c'est pas vrai.
Après, d'une façon un peu basique, quand je vous entends, je me dis que c'est peut-être aussi parce que du coup, la fécondité, le commandement de fécondité qui nous est donné, il est pour permettre cette lignée messianique. Mais comme du coup Jésus est né en Marie, il y a plus...
Ah non.
Non, ça marche pas maintenant.
Non. C'est pas aussi simple. Non. Ça, non. En fait, le sens du célibat, non, au contraire, il faut avoir des enfants aujourd'hui.
Par rapport à la Sainte Vierge précédemment, ce que dit monsieur en disant, on a quand même cette tradition très forte de la consécration de Marie, et même après, avec Joseph, ils ont vécu dans la virginité l'un avec
l'autre. Oui.
Alors même qu'ils étaient des époux.
Oui, voilà, c'est vrai. Ce que je pense, c'est que c'est à titre tout à fait exceptionnel.
Oui, carrément. Mais est-ce que c'est pas justifié par le fait que la lignée messianique, du coup, s'accomplit parfaitement en Marie, puisqu'elle devient le Messie?
Je crois pas. Okay. Parce que, en fait, ça voudrait toucher notre consécration chrétienne à nous. Donc, la consécration chrétienne des consacrés, elle n'est pas du tout dans le fait que, Jésus est venu et donc, non. Elle est dans le fait que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et nous anticipons, par notre célibat, le royaume. On dit que le royaume est au milieu de nous, on le proclame. Tellement au milieu de nous qu'on va renoncer au trésor des trésors qui est d'avoir ce fruit. Et c'est toujours vrai, c'est toujours... la parole n'est pas annulée. Voilà. Dans ce sens-là, c'est magnifique, parce que dans ce sens-là, Jésus dit « Je ne suis pas venu annuler, mais accomplir ». Donc la parole n'est pas annulée, donc il faut... Alors, on n'est pas des natalistes forcément, mais quand même, il y a ça dans la Bible, voyez.
Et quel est le terme hébraïque qui signifie vierge et que nous traduisons par vierge? Voir si c'est exactement le même que ce que nous retenons aujourd'hui.
Non, alors il y a cette fameuse question avec Isaïe, la vierge concevra. Donc c'était traduit en grec par parthénos, qui est clairement la vierge, alors qu'en hébreu c'est betula. Mais betula, c'est juste une jeune fille. Il n'y a pas de mot vraiment pour dire vierge. C'est betula, jeune fille. Donc, ouais, c'est pas forcément. Voilà. C'est pas... Voilà. Après, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Hein. C'était juste un partage d'un point.
On a juste une question sur les femmes stériles, justement, parce qu'on sait qu'on a tellement dans la vie. Est-ce que, justement, c'est pas par manque de foi, la foi retombe dans le peuple de Dieu et... Voilà, c'est comme le désert, c'est du désert, à un moment, on a un peu ras-le-bol. Est-ce que justement la stérilité ne vient pas juste, vous m'avez oublié, donc je vais refaire un miracle, encore une fois, et encore une fois, la femme stérile va...
Bien sûr. Oui, c'est une des lectures aussi, oui.
C'est vrai, c'est
bien sûr.
La foi.
Bien sûr. De toute façon, la Bible, dans les psaumes, c'est dit, une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. On peut dire 70 fois et j'ai entendu. Donc, cette lecture, les lectures s'annulent pas les unes des autres. C'est aussi tout un tas de lectures qu'on peut faire. Et ceci est vraiment vrai. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Oui. Oui.
Mais c'est quoi ce royaume qui rompt en apparence avec, ce qu'attendaient les juifs.
Eh ben c'était non, c'est pas ça rompt pas. Les juifs attendent aussi ce royaume. C'est le même. Ils attendent la même chose. Ils attendent le festin des noces, etc. Parce que c'est biblique. Mais nous, on a reçu le Saint-Esprit. C'est ça. Nous, les chrétiens, on a la foi qu'on a reçu le Saint-Esprit en nous. Et donc c'est ça. Non, puisque les juifs n'ont pas le baptême. C'est pas baptisé, les juifs. Ils ont reçu des préfigurations du Saint-Esprit, évidemment. Parce que sinon, ils n'auraient pas pu vivre. Mais ils n'ont pas reçu la plénitude. Ça, c'est dans la foi. Ils n'ont pas reçu la plénitude du baptême. C'est parce qu'on est baptisé le sacrement. On dit, les consacrés, ils n'ont pas de sacrement. C'est vrai. Pourquoi les prêtres, ils ont un sacrement, les mariés, ils ont un sacrement, on n'en a pas. Si. Notre sacrement, c'est le baptême. On montre le baptême. Voilà. Le baptême, on est assis à la droite de Dieu. C'est ce qu'on proclame par notre célibat, c'est ce témoignage qu'on donne. Voilà, c'est ça la différence. Mais c'est vrai que les Juifs ont aussi reçu le Saint-Esprit, mais pas de la même manière. Alors comment ça se fait, je sais pas.